Et comment s'est créé le CCG? D'où vient l'idée?
Ah non, bon, l'idée, bon, est venue, bon, parce qu'on était, comment dirais-je, des lycéens, et la littérature antillaise n'était pas enseignée. Bon, on avait entendu parler de Césaire, de François, non, mais on ne connaissait pas. Et donc, il y a un certain nombre de profs, bon, qui nous ont aidés à créer le CCEJ, notre Max Gano et Victor Cécile. Et là, nous avons commencé à lire Césaire, notamment Discours sur le colonialisme, Cahier d'un retour au pays natal. Et là, bon, il y avait une jeunesse qui était en attente parce que, bon, le CCEJ a été une des principales organisations, avec un fait nouveau, que c'était la première fois qu'une organisation de jeunesse échappait au contrôle du parti qui dominait la vie politique en Guadeloupe, qui était le Parti communiste guadeloupéen. Et ça, ils ont mal pris de voir que les jeunes lui échappaient, parce que tous ces jeunes étaient beaucoup plus proches comment dirais, des militants qui étaient très critiques à l'égard de la ligne politique du parti. Donc le CCEJ était devenu presque.
Donc vous n'aviez pas de ligne politique.
Non, mais oui, mais la culture est quand même liée, parce que quand tu lis les œuvres de Césaire et de Fanon, c'était quand même, notamment, bon, Fanon est connu comme le principal critique du colonialisme, et Césaire, bon, a fait. Césaire, toute sa littérature, c'était une littérature très très engagée, où Césaire condamnait, bon, fermement le colonialisme. Bon, ensuite, notre proximité avec des professeurs qu'on appelait à l'époque des profs éveilleurs de conscience, notamment bon, Cécile, Arsène Morose, etc. Donc on n'a pas eu de mal à nous verser dans la politique et à adhérer. Bon, on a été membre très tôt des cellules du Parti communiste. Il y en avait trois. Il y avait la cellule Max Lancoro. À l'époque, les copains qui y étaient, bon, il y avait Jean-Claude, Maragnès. Il y avait la cellule Fidel Castro et la cellule Toussaint Louverture, qui était la cellule des Normaliens à laquelle j'appartenais. Et là aussi, bon, non. Il y avait des gars vraiment, qui étaient des gars extraordinaires, comme Guy Longa.
Il était quoi, Guy Longa?
Guy Longa, il était Normalien. Donc, quand je l'ai connu, Guy était il était en première. Et c'était lui le responsable. Bon, c'est un gars, bon, je l'ai connu en 65, bon, c'est pas par hasard aussi en 67, il a fait partie des personnes qui ont été arrêtées, transférées à Paris, et il est resté 3 ou 4 mois emprisonné à la santé.
Est-ce que vous aviez l'impression que vous étiez surveillé?
Ah si, ah, non, on était surveillés, ça c'était, je me rappelle quand on assistait aux réunions du groupe La Vérité qui se faisaient tous les mercredis et les vendredis à la rue Nassau. Et pas très proche, bon, il y avait souvent des voitures, des renseignements généraux. Mais je vais parler un peu plus tard, lorsqu'on parlera des événements de mai 67, pour montrer comment on était, si, on était surveillés. Mais on ne peut pas dire qu'à cette époque, de 65 à 67, il y avait une ambiance de peur. Les gens, on n'avait pas peur, mais on était quand même surveillés.
À part la lecture, quelles étaient les autres activités du CCEJ?
Ah non, il y avait la lecture, il y avait des réunions. Bon, c'était ça. Notre problème à nous, c'était à travers la littérature, de faire prendre conscience aux lycéens qu'il existait réellement une culture guadeloupéenne, une culture antillaise, qui était différente de la culture française. Et en ce sens, que la littérature, la culture faisait, c'était un des éléments, bon, fondateurs de la définition d'une nation. Parce que pour nous, il y avait quand même un lien entre la culture et l'existence d'une nation guadeloupéenne en formation.
Est-ce que la musique faisait partie de vos activités?
Si, alors, dans les années 65, on commençait à nous intéresser au Gouka. Alors, puisque bon, il faut le dire, jusque dans les années 65, pour nous, le Gouka était considéré, bon, comme étant une musique à vieux nègres. Ça,
qu'est-ce qu'on disait le Gouka à l'époque?
On disait Ka, Ta Goutam. Bon, et je me rappelle, oui, Goutam. Et je me rappelle qu'à l'époque, bon, les années 65, bon, je connaissais, bon, il était connu parce qu'on le traitait de vagabond. À l'époque, on connaissait Velu. vélo dans les rues de Pointe-à-Pitre. Mais le go-kart a émergé vraiment après les événements après les événements, pour moi, ça a été émergé après les événements de mai 67, où bon, les étudiants guadeloupéens, notamment la GEG, il y a eu un travail qui a été fait bon, en direction d'une part du créole, pour la reconnaissance du créole en tant que langue nationale guadeloupéenne, et le go-kart en tant qu'élément fondamental du patrimoine culturel de la Guadeloupe. Et après, bon, celui qui est devenu un peu l'icône, bon, ça a été Guy Conquête. Ça a été vraiment celui qui nous a. Ouais, ça. Et moi, je me rappelle. C'est un exemple pour te montrer comment le go-kart a été perçu comme vinaigre. J'avais fait, après les événements de 67, c'était 69, la fête de Trois-Rivières, c'était le 15 août. Et j'avais fait Guy Conquête venir à Trois-Rivières. Je me rappelle, madame Christian, parce que Trois-Rivières, c'était une commune, bon, commune de gros propriétaires fonciers. Et où l'emprise des mulâtres était très très forte, et où il y avait un rejet, bon, visible ou invisible, bon, de tout ce qui était noir. On m'avait dit que si je faisais conquête venue à Trois-Rivières, j'aurais été molesté. Et Guy est venu un 13 août à Trois-Rivières, je ne vais jamais oublier ça. Eh bien, il a dû revenir le 14, le 16 et le 17, tellement les gens ont apprécié une musique vraiment qu'ils ne connaissaient pas.
Ils jouaient tambour et voix, il y avait aussi des
Ah
instruments.
non, il y a ah non, tambour et voix.
Tambour et
Ah
voix.
non, ça a été. Ah non, Guy Conquête. Le 13 août, ça a été. Ah ouais, je me rappelle de ça. C'est quelque chose qui m'a marqué. Ouais.
C'est bien de savoir ça.